Space s'il vous plaît?
Oui.
Non, c'est rewind, ça. Space s'il vous plaît.
Excuse-moi.
Non, plie, coudon. Le truc avec le triangle, là, à droite, là.
Oui, je le sais.
Non, mal fait. Tasse-toi de là.
Non, c'est correct, correct.
La ligne des mêlées.
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 C'est la ligne des mêlées, là.
La ligne des mêlées.
Je comprends pas ce que tu veux.
Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.
Bienvenue à tout le monde, première édition du podcast La Ligne des Mêlées en direct des studios ici à BPM Sport. Donc, fuck la radio, on est rendu ici en studio pour notre édition du jeudi. Donc, on enregistre le jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi le 12 septembre et le pod devrait sortir avant le match de ce soir contre les Bills et les Dolphins. Donc, on est rendu vite de même, on est rendu à notre troisième, si tu veux, épisode. Première fois en studio ici. Mais avant, on était à la radio là-bas, fait qu'on va se revoir pour notre prochain quatrième épisode. Lundi prochain, on va revenir sur la fin de semaine de football. Je veux saluer mon équipe extraordinaire, Pepper avec son tablier. Salut Pepper.
Oui, salut, ça va?
Eh oui, ça va super bien. Et je vous présente notre recherchiste en chef, Parley Don, qui est ici avec nous. Parley, comment ça va?
Bon, Parley Don.
Parley Don, qui va être notre recherchiste pour la saison. Un gars qui suit tout ce qui est à suivre dans le football. Devrait s'amener de la nourriture ici, manger, parce que sa job est déjà faite avant, si tu veux, le show. Fait que Big Parley Don va m'aider toute la saison à ramasser les informations les plus pertinentes à vous donner sur chaque game. Écoute, comme je vous dis à chaque semaine, la NFL, c'est l'occupation double des garçons. Tu sais, c'est ça qu'on a de besoin en réalité. Là, c'est, nous autres, on est là, ben, la maison de l'amour, c'est semi. Tu sais, nous autres, ce qu'on aime, ben là, il y en a eu un peu de la maison de l'amour cette semaine, là. Mais nous autres, ce qu'on aime, c'est les histoires. Hein? Fait que dimanche, ça a commencé dimanche. Tyreek Hill et toute sa gang ont failli se faire arrêter. D'ailleurs, suite à ça, là, j'ai su aujourd'hui ou hier que si les Dolphins ne s'étaient pas mêlés de ça, Tyreek Hill, Calais Campbell puis Jonah Smith rentrant dedans pour la journée.
Ben voyons
donc. Ouais. Donc il a fallu vraiment que les Dolphins disent c'est parce qu'on joue dans comme 3 heures, gang. Là, on peut-tu comme désamorcer la situation? Mais Tyreek a pas envie de rien désamorcer, en fait. Là. Il est juste allé toute la semaine à CNN, ABC, juste faire des entrevues.
Ah ouais, il s'est pas empêché, là.
Hey dog, man, I just want these motherfuckers policemen get arrested. You can't do that. Come on, dog. Come on, you know me, man. Tyreek Hill, you know me. Fait que ça a été une grosse semaine du côté des Dolphins. J'ai hâte de voir si ça va affecter leur match de ce soir. Évidemment, côté nouvelle de la semaine, ben, il y a eu la blessure à Jordan Love quand même qui a été arrivée vendredi dernier. Mais on a su les détails un peu de la blessure. Moins grave que ce qu'on aurait dit, qu'on aurait cru au départ. Là, une blessure quand même grave au genou. Mais finalement, on parle de peut-être quelques semaines. Même Matt LaFleur a même dit, pas sûr que Jordan Love est exclu du match en fin de semaine. Moi, je pense que oui. Là.
Ouais.
Je pense qu'il est clairement exclu de ce match-là. Mais tu veux jouer la game de pas trop dire.
Ouais, classique,
il va jouer jusqu'à la fin. Exactement. Classique. Donc, je pense que quand même Jordan Love est fort certainement pas disponible en fin de semaine du côté de Green Bay, mais peut-être la saison n'est pas complètement sabotée, tu sais, surtout si tu regardes un peu comment cette division-là comme pourrait aller pendant l'année. Tu sais, ça n'a pas été un premier match très glorieux non plus du côté des Bears. Caleb Williams n'a pas nécessairement fait écarquiller les yeux peut-être comme on aurait peut-être cru qu'il l'aurait fait. Là. Tu sais, ça a été un match quand même de 93 verges. C'est fou quand même faire ça en 4 quarts. Là. Les Vikings sont quand même impressionnés, par exemple, dans la même division. Je ne sais pas si ça va pouvoir perdurer dans l'année, mais en tout cas, les Vikings ont très bien sorti, très bien commencé l'année. Fait qu'écoute, les Packers sont un peu limités par la blessure de Jordan Love, mais...
Puis ils ont déjà un gros match-up pour cette semaine-ci. T'sais, en tout cas, je vais être surpris de voir que soit les Packers ou les Colts vont être 0-2 après cette semaine. C'est deux équipes quand même, qu'en tout cas, les deux ont trouvé qu'ils risquaient d'avoir une bonne saison. Puis une de ces équipes-là va se ramasser en fâcheuse position déjà. Là.
Exact. On les mettait les deux en séries éliminatoires d'ailleurs, puis ça va vite quand même dans cette ligue-là. Fait que ça, ben, comme tu dis, bon point, j'ai bien hâte de voir. C'est quand même gros, ça quand même. Puis on a des grosses statistiques en blime là-dessus qu'on va vous sortir pour les matchs dans fin de semaine. Des nouvelles, moi aussi, qui ont accroché mon attention. Ben écoute, c'est beaucoup de blessés chez les Rams.
Ouais.
Au moins, c'est pas Matthew Stafford. Au moins, c'est pas Kieran Williams. Au moins, c'est pas Cooper Kupp. Mais c'est quand même Puka Nacua qui est out. C'est une blessure qui est apparue pendant le camp. Finalement, c'est réaggravé à la première semaine. Donc, Puka Nacua a été mis sur la liste des réserves. Joe Noteboom aussi, bloqueur à gauche. Steve Avila, le nouveau garde, qui ont été cherchés, qui ont payé très, très cher. ils ne joueront pas en fin de semaine. Il y a Rob Havenstein, l'autre bloqueur, et Kevin Dotson aussi, qui les deux en ce moment sont, c'est-à-dire, questionnables pour le match en fin de semaine.
Il y a plusieurs équipes pour qui ça m'inquiéterait particulièrement, mais avec Sean McVay, ouais, j'ai quand l'impression que c'est une des équipes qui risque de pouvoir quand même s'en sortir puis trouver une façon de venir, je vais dire colliparté, c'est clairement pas le bon mot, mais...
Qu'est-ce que ça dit?
pour venir patcher ces problèmes-là, tu sais, d'utiliser...
T'as joué au Carabon, toi, récemment, non? Tu dis colliparté.
Ah non, écoute, j'avais comme deux, trois mots dans la tête, j'étais comme, écoute, je vais le dire quand même.
Avec le tablier, on pourrait dire, you're cooking, boy!
Ben, mettons, tu sais, c'était de venir justement pallier ces problèmes-là. Tu sais, par exemple, il y a des problèmes sur la ligne offensive. Convaincu qu'il va y avoir des packages utilisés par Sean McVay pour, par exemple, utiliser un deuxième tight end pour certaines formations, ainsi de suite. Ouais. Tu sais, c'est un coach qui est tellement intelligent.
Innovant.
C'est ça, exact. Fait que je suis convaincu qu'il va trouver une façon de s'assurer que son équipe demeure compétitive malgré toutes les pertes.
Puis il reste quand même, Matthew Stafford est là, tu sais.
Ouais.
Fait que tu peux toujours te revirer du côté de Matthew Stafford qui a quand même eu une grosse carrière à Lyon. Au Lyon, à sortir de la chenoute à toutes les fins de semaine. Fait que s'il y en a bien un qui est genre Mario et Luigi Plombier, là, qui vient tout rabouter en dernière seconde, là,
ouais,
je dirais Matthew Stafford, c'est un bon candidat pour ça. On va en parler aussi tantôt, il joue les Cards en fin de semaine. Écoute, dans les affaires qui m'ont bien fait rire, quand même, faut en parler. Commençons avec la publication des Panthers de la Caroline qui ont vraiment eu une première semaine désastreuse, là. Contre les Saints étaient la pire, c'était la pire combinaison de la NFL, toutes statistiques confondues entre Derek Allen et Dennis Allen pour commencer cette année-là.
Ouais.
Tous les parieurs ont pris la Caroline et les Saints les ont explosés, mais tellement fort. Et là, c'était comme, OK, mais les Panthers sont-ils encore vraiment pourris à ce point-là? Et là, j'ai su que Dave Canales, le coach, a eu déjà sa première rencontre avec Dave Tepper. Donc, c'est inévitable. C'est inévitable et c'est tellement pas bon signe pour Dave Canales. Là. Il a dit, j'ai la confiance totale de Dave Tepper, tu sais. Imagine Dave Tepper l'aurait sacré dehors. Ça aurait été le comble de tout ce que j'aurais espéré. Mais ouais, on a eu une publication. Fait que la semaine passée, c'était le 11 septembre. Hein, il faut le rappeler. Et les Panthers ont publié, ouais, ça m'a bien fait rire. Le 11 septembre, il publie une photo avec le drapeau des États-Unis écrit « Never forget ». Et on va aller à la section des commentaires parce que quelqu'un écrit tout de suite en partant « No way y'all left the comments on for this one » et ça se met à déferler. Premier comment « This post, it's still not safe. Every Sunday feels like I'm reliving 9/11 ». Ça, c'est tous des fans des Panthers qui écrivent ça en commentaire. « Our tower's been collapsing since 2017 ». Un autre commentaire extraordinaire. This team makes me wish I was on those planes. c'est épouvantable.
C'est le genre de publication qui me fait apprécier Internet d'autant plus.
Moi, je tombe toujours dans la section des commentaires et je me marre. C'est vraiment un de mes trucs préférés à faire. Quelqu'un d'autre écrit « Our 9-11 was this past Sunday. Our 9-11 is every weekend. Saddam Hussein would be a better defensive coordinator. » Écoute, c'est de toute merveille. Je me suis bien amusé de ça parce que clairement, c'est pas facile pour les fans des Panthers. C'est pas facile. Et ce match-là est vraiment comme... C'est premier match de l'année. En plus, tu te fais défoncer 47-10.
C'est quoi ton opinion de Bryce Young à travers tout ça? Parce qu'on s'en est parlé un peu, puis je me souviens qu'on en a parlé lundi, puis toi, tu te disais que c'était peut-être ses derniers milles en tant que carrière partant dans la NFL. Puis qu'est-ce que tu en penses justement de son début de carrière? Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec cette situation-là?
Je pense qu'il n'est pas à la hauteur. Je pense qu'il est trop petit. Ça a toujours été comme le bémol de ce gars-là. Il était trop petit à Alabama, il est beaucoup trop petit dans la NFL, puis c'est pas Kyler Murray, tu sais, on dirait ce qu'on veut, Kyler Murray, il est peut-être genre 205 livres, 210 livres à 5 pieds 9, il est quand même bâti, le Kyler Murray, là, puis il court comme pas grand haut de carrière, capable de courir et de décamper.
Mm-hmm.
Bryce Young n'a pas les qualités athlétiques de Kyler Murray, pèse pas le même poids, a pas la même balle, court pas du tout avec autant de vitesse que Kyler Murray. Quand tu compares les deux, ben moi, mon bémol, ça a toujours été est-ce que on est rendu à un ère de la NFL où un petit carrière comme ça peut avoir du succès, tu sais? Et je pense pas, tu sais. Je me rappelle d'une vieille quote de Sean Payton qui disait « On peut-tu juste s'entendre qu'on repêche jamais un carrière numéro 1 en bas de 6 pieds 2? » Comme dans genre, quand il était à Fox, il avait dit ça, tu sais. « On peut-tu faire la règle de base de pas faire ça? » Puis la même année, Bryce Young avait été repêché. Puis je pense qu'il est 5 et 10, 5 et 9.
Puis il y a des gens qui comprennent pas pourquoi. Peux-tu leur expliquer pourquoi, mettons, c'est rendu extrêmement difficile pour un petit corps arrière d'évoluer dans la NFL?
Non, mais c'est juste que ça a toujours été compliqué. Tu sais, la pochette est tellement grande. Tout le monde est tellement grand. Puis c'est difficile de voir. Puis un gars comme Kyler Murray, il s'aide parce qu'il sort de la pochette. Tu sais, il est capable de sortir de la pochette et se trouver des angles de lecture où il n'est pas nécessairement derrière son centre, son garde et son bloqueur. Mais Bryce Young, c'est un carrière qui joue dans la pochette. Qui joue dans la pochette derrière cette immense ligne de mêlée-là. Puis il faut dire que quand il était à Alabama, mais sa ligne à l'attaque était la meilleure au pays. Toute la ligne à l'attaque, il créait des brèches extraordinaires pour lancer la balle. Ce qui n'est pas le cas dans la NFL. Ils l'ont essayé de la revamper quand même pendant la saison morte, mais clairement, ça n'a pas porté fruit. Quand tu regardes les Saints, qui n'ont pas nécessairement la ligne défensive premium de la NFL, ont passé toute la journée dans le champ arrière des Panthers. Fait que c'est ça pour les fans des Panthers. C'est pas un début de saison qui est extrêmement glorieux. Et écoute, on ne peut pas tout de suite tomber dans la partie des matchs sans parler de mon sujet préféré de la semaine. Shannon Sharp. What a dog, premièrement. What a dog, faut le dire, les gens. Shannon Sharp est en forme.
Visiblement.
Et hier, a dit qu'il s'était fait hacker son Instagram parce que vraiment, on entendait Shannon Sharp en live sur Instagram s'en donner à cœur joie. On peut pas dire ça autrement. Là. Au début, je pensais, je savais pas trop ce qu'il faisait, là, mais finalement, on comprend très très vite ce qu'il est en train de faire. Shannon Sharp était en pleine partouze avec une conquête à lui qui s'appelle Michelle. Michelle?
On a su le nom.
J'étais on a su le nom. Même Chad, Ocho Seco a dit sur le podcast, j'étais content que c'était pas un Michael qui a défoncé Shannon Sharp. Mais donc Shannon Sharp a mis son Instagram live pendant une belle partouze à domicile avec une certaine Michelle. Et écoute, t'as toujours sa job à ESPN. Fait que
ouais.
C'est inspirant. Regardez mes Instagram live dans les prochaines semaines. On verra voir si je peux donner la qualité de show et moi aussi conserver mon emploi. Donc écoute, je comprends pas comment tu vas aller sur Instagram live sans que je sais même pas comment faire, on va dire.
Mais c'est un excellent coup de marketing.
Excellent.
Mais.
Est-ce que c'était prévu?
Non, ça c'est sûr que non. Mais...
Comment tu fais pour aller sur Instagram live? C'est-tu compliqué?
Ben, écoute, techniquement, tu le pars direct, là.
Là, boum, je partirais ça de même.
Ouais, tu l'as, là. C'est, ben...
Avec le petit plus, là, parce que tu vas dans en direct, puis tu partirais, puis je partirais mon affaire.
Ouais, puis là, on serait en live, là.
Moi, il a fait pour tout faire ça sans faire exprès.
Ben, c'est pour ça que les gens pensent...
Il a fait exprès.
Donc, tu sais... Qui s'est fait hacker, mais...
Il a dit lui-même qu'il s'est pas fait hacker.
Ah non?
Non, il a confirmé.
Ah oh, ouais?
Genre, j'ai merdé, tu sais. J'ai pas été hacké.
Il a dit qu'il comprenait pas, il a lancé son téléphone.
Ben voyons donc.
C'est une grosse affaire.
Mais il est bien dans la ligne.
C'est du Kim Kardashian 2.0.
Ben vraiment, là.
Il est pas fait exprès.
Ben pour vrai, puis on parlait de bons commentaires tantôt, là. La liste de commentaires qui sont sortis pendant le live que tu peux revoir, c'est du génie, là.
Ouais, hein. On a-tu des commentaires? On en a-tu des questions dessus? Ah, j'en ai, là. Hunk grunting like ogre. Like an ogre. He giving her that hawk to her. Are they fucking? Yo, Hunk, that's not PG. No. Hang up the phone, big Hunk. Oh shit, she said please. Ah, oh, damn, this one's going viral. They both out of breath now. Ouais, il était.
Oh, et c'était particulier. Oh, visiblement.
Mais c'est un gros cochon, là, en plus, que quand on écoute là, ce qu'il disait, là. Il a l'air d'un bon sauvage, là. Oh, ouais, il disait des termes que je suis même pas sûr que je peux dire ici, là, genre.
Non, probablement pas.
Il parlait de comme le yoga, tu sais, le stretch qu'on fait dans le yoga, là. Il parlait beaucoup de stretch. J'ai entendu parler de stretch. Parlait de lui aussi, à quel point il était large.
Oh oui, particulièrement.
Il parlait beaucoup de sa largeur. Donc écoute, ça met de la joie dans ma vie.
Bref interlude.
Et Shannon Sharp est en feu cette année sur les réseaux sociaux, il faut le dire.
Non, il arrête pas.
Il y a eu plusieurs entrevues extraordinaires, notamment son parle avec Chad Ochocinco, où c'est genre deux vedettes du football qui font juste parler de cul pendant une heure. C'est comme...
Ouais, legit.
C'est juste ça, fait que je trouve ça inspirant.
Ouais.
Peut-être que... Peut-être que nos thématiques vont changer très rapidement. Mais voilà, ça va pour les nouvelles de la semaine dans le monde du football. Est-ce que vous avez autre chose des nouvelles?
Non, tu sais, moi je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon.
Oh ouais, exact, à notre hauteur. Revenons un peu pour le match des Jets contre les 49ers de lundi dernier. Moi j'ai été extrêmement déçu.
Par le match en soi, ou la performance des Jets?
Ah, la performance des Jets, c'est affreux.
100%.
Tu présentes là, Christian McCaffrey joue pas, Trent Williams a pas pratiqué une fois du camp, c'est le plus vieux bloqueur de la NFL, là, comme, c'est ton meilleur joueur à l'attaque, en fait, qui te reste, là, ouais. Trent Williams, il a pas pratiqué une fois du camp, a défoncé tout le monde sur le terrain, toute la soirée.
Oh, c'était...
Tout le monde, il n'y a pas eu un joueur des Jets qui a bien fait contre Trent Williams.
Le contrôle du cadran là, des Niners dans ce match-là, ça n'avait aucun bon sens.
Ils ont couru avec Jordan Mason, puis c'est drôle parce que ça me rappelle, tu sais, Kyle Shanahan, pour ceux qui ne savent peut-être pas, avait un père, Mike Shanahan, qui coachait à l'époque avec les Broncos.
Ouais, ouais.
La thématique de Mike Shanahan, c'est de dire n'importe quel porteur de ballon, il va en mille verges. Parce que ce concept de zone, de course au sol, était tellement bon que tu lui donnais n'importe qui, puis il finissait au Pro Bowl comme porteur de ballon. Puis j'ai beau aimer Christian McCaffrey, mais Jordan Mason, 28 courses pour 147 verges, 5.2 verges par course, un touché, contre une des meilleures défensives de la NFL. Là, je me dis, puis Trent Williams n'a pas pratiqué une fois du camp. Puis tout le restant de la ligne à l'attaque des 49ers, c'est pas glorieux, là. C'est pas dans les bonnes lignes à l'attaque de la ligue. Et ont vraiment fait mal paraître les Jets, là. À tel point que je me suis sérieusement posé des questions sur les Jets. C'est 400 verges d'attaque des 49ers contre une des meilleures défensives de la ligue, en tout cas en pré-saison. Hein, il était comme top 3, top 5 de la ligue. Puis ça me fait sérieusement douter pour le restant. En tout cas, j'ai hâte de voir s'ils vont se redresser, mais tu parles d'un début de saison mauvais où les Jets, t'as rien entendu d'eux pendant le camp d'entraînement. Donc, bonne nouvelle. Et les 49ers étaient dans tous les tabloïds avec Brandon Ayuk qui était pas là, avec Trent Williams qui était pas là, avec ci et ça, et ci et ça. Et Christian McCaffrey, 30 minutes avant la game ou à peu près, dit qu'il joue pas, et pile dans le visage des Jets. Moi, je les ai sortis de mon power ranking.
Oh, 100%, 100%. Puis moi, ce qui me marque dans tout ce match-là, en plus, c'est que je me suis tout le temps dit, s'il y a une chose qui est sûre avec les Jets, malgré tous les questionnements qu'il y avait avec leur offensive, c'est que leur défensive allait leur permettre de rester dans les matchs. Puis ils ont jamais été capables de les sortir du terrain, ce qui a permis aux Niners de complètement contrôler le cadran. Tu voyais que les gars étaient complètement essoufflés. Ça m'a fait questionner aussi sur à quel point les Jets ont de la profondeur à la position, à la ligne défensive. On sait que Reddick n'a pas encore signé, mais parce que souvent, les meilleures équipes en défensive ont une grosse rotation de linemen défensifs qui sont capables justement d'avoir un bon pass rush, puis après ça d'avoir de la variété pour justement garder un bon pass rush contre ce genre d'équipe-là. Puis ils n'ont jamais été capables d'avoir quelconque pression. Ils ont couru comme ils voulaient. Puis justement, moi, je te demande, c'est quoi l'identité des Jets après cette semaine-là?
Je sais pas, c'est ça. Je suis un peu en désarroi. Là. La défensive s'est pas présentée partout, puis a tellement mal paru. Que je me demande comment tu peux rebondir de ça, honnêtement. Parce que les 49ers, c'est sûr que c'est une bonne attaque. Mais quand tu regardes l'année dernière, ce que les Jets ont réussi à faire contre les meilleurs corps de la ligue, ben c'était leur force, en fait. C'était leur force de bien paraître contre les meilleures attaques, les meilleurs corps de la ligue. Et là, affronte Brock Purdy semaine 1 avec une défensive qui revient à peu près au complet. Mm-hmm. Ils se font littéralement piler dans la face à, comme tu dis, une défensive où la ligne défensive, c'est une des forces de cette défensive-là, la profondeur, mais que c'était un après l'autre, après l'autre, après l'autre, qui se faisait juste piler dessus. Et tu sais, je peux pas dire que Aaron Rodgers m'a déçu, mais je peux dire qu'il m'a montré, tu sais, trois beaux jeux dans la game.
Ouais.
Trois bons jeux que je fais. Oh, OK, on a quelque chose.
Puis sa mobilité m'a inquiété. Sa mobilité m'a inquiété un peu. Tu sais, habituellement, on était habitué à le voir être capable de s'échapper un peu de la pression. Ben, c'est ça qu'on sait. Là, ça a été comme flagrant. Là.
Ouais, mais sa ligne à l'attaque l'a bien protégé, par exemple, je trouve.
Ouais.
Ils ont juste pas réussi à établir le jeu au sol.
Ouais.
Puis, on pensait que c'était une de leurs forces. Tu sais, clairement, sur du match, tu sais, deux courses tout de suite, une après l'autre. Leur but, c'était de courir. Tu t'en vas dans un environnement à l'étranger comme ça, tu veux être capable de courir. C'est le plus simple à faire. En fait, t'as pas de faire de cadence, soit à peu près. Mais ils ont jamais été capables d'établir le jeu au sol. Tu sais, Breece Hall. Puis aussi, j'ai remarqué que certaines choses dans la saison morte des Jets, tu sais, un peu mince comme beaucoup de profondeur porteur de ballon. Mais quand tu regardes le match, Breece Hall, 16 courses, Brian Lannan, une course, puis c'est tout.
Ouais.
Fait que c'est juste j'étais dans les mains de Breece Hall. Réception, Alan Lazar mène, mais on s'entend que le seul joueur qui attrape les balles de ce côté-là, c'est Garrett Wilson. Il est capable de
puis
de
il a fait quelques échappées en plus.
Exact. Mais on s'entend que la menace aérienne des Jets, c'est Garrett Wilson.
Ouais.
Tu sais, Alan Lazar va. Aaron Rodgers va le trouver quand il va être tout seul, mais je me souviens un long 3-8 en début de match, lance une balle à Garrett Wilson sur une espèce de tracé vertical où Garrett Wilson était à l'intérieur. Ça, c'est un jeu de football. Là. Alan Lazar est plus capable de faire ça.
Ouais.
Garrett Wilson est la seule menace. Fait qu'en gros, c'est une attaque qui, avant que Mike Williams revienne, ou s'il reste en santé comme receveur de passe, qui passe entre Garrett Wilson, Breece Hall, Aaron Rodgers.
Ouais.
Fait que si t'enlèves le jeu au sol, comme les Fournettes ont réussi à faire, mais c'est Aaron Rodgers puis Garrett Wilson. Mm. C'est mince quand même.
Puis,
c'est un peu trop mince. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il compte sur le retour de Mike Williams en santé pour donner une arme de plus à Aaron Rodgers, parce que je trouvais ça très mince finalement. Toute cette belle saison montre-là en disant que les Jets sont une des meilleures équipes sur papier. Et je regardais ça et je faisais... Pas capable d'arrêter le jeu au sol. Puis si t'es pas capable de courir la balle, là, t'as pas les belles époques d'Aaron Rodgers avec Randall Cobb, avec tous ses receveurs, Donald Driver, avec
Jordan Nelson.
Les Jordan Nelson, t'as pas ces ressources-là là, du côté des Jets. Là. Fait que t'as ta première option avec Garrett Wilson, puis après ça, c'est Alan Lazar, puis après, c'est... Mm. Ils avaient repêché un jeune, Malachi Corley, mais il n'y a pas de chaud ballon.
Mais tu sais, au moins, ce qui est bon pour eux, c'est qu'ils ont des affrontements qui vont leur permettre peut-être de se roder un peu plus dans les prochaines semaines avant de retomber contre les Bills, contre les Vikings. Tu sais, là, t'as les Titans et les Patriots les deux prochaines semaines.
Ouais.
Bon, deux équipes qui sont pas perçues dans les favorites, bien évidemment, mais qui vont peut-être leur permettre d'aller chercher, en tout cas au niveau offensif, un certain rythme.
Peut-être, on espère, en tout cas. Puis, mais je pense pas que ça va être des matchs faciles quand t'as vu les Titans jouer leur premier game contre les Bears.
Mm.
Je pense pas que ça va être un match nécessairement facile pour les Jets de jouer ce match-là. OK, fait que ça, c'était ça pour le lundi. Parler du match de ce soir, Bills-Dolphins, ben, écoute, beaucoup de gros stock là-dedans. C'est un match de division qui est très, très important. Une note qui est intéressante, Big Don Parley m'a bien fait de me rappeler, il y a une grosse, grosse différence de température quand tu joues à Miami, mais un match de jour. Fait qu'en gros, les adversaires sont du côté du soleil, et t'as Miami du côté de l'ombre avec...
Ah ouais, tout le match, hein?
Tout le match, avec un match à une heure, là, avec, tu sais, les serviettes froides, puis tout ça, la clim, puis Tyreek a son fan club en arrière. Puis tout ça.
Il a recréé.
Ouais, mais il...
Laisse faire Patreon.
Pas de niaiser. Ouais, pas Patreon, lui.
La France, c'est 20 degrés entre les deux scènes.
Exact.
Okay.
On parle de quand même comme beaucoup de degrés de différence, puis mais c'est les matchs
20 degrés.
Ouais, des fois c'est ça, c'est de 10 à 20 là, à peu près là. C'est gros là. Celsius. Mm. Fait que mais le match est en soirée. Fait que ça c'est intéressant parce qu'il y aura pas nécessairement cet avantage là du côté des Dolphins. Quand tu regardes dans les derniers matchs des Bills, Josh Allen est 11-1 contre les Dolphins dans ses 11 derniers matchs. Dolphins, par exemple, sont 10-0 favoris par la marge quand ils jouent à la maison avec Tua Tagovailoa. Mais Josh Allen est 6-0 le jeudi soir. Fait que j'ai bien hâte de voir ce match-là parce que Dolphins sont toujours très forts en début d'année à cause justement qu'ils ont des schémas offensifs un peu différents puis ils te lancent tout ça puis t'as pas le temps de t'adapter. Dolphins, ce soir, contre les Bills. Les Bills ont vraiment une nouvelle identité. Tu sais, c'est pas la même identité qu'on a connue depuis dans les dernières années de Josh Allen. Le match passe beaucoup plus par les schémas offensifs avec leurs deux ailiers rapprochés, Dalton Kincaid, Dawson Knox et aussi James Cook au poste de porteur de ballon. Donc ça, j'ai bien hâte de voir les Bills. Mais moi, j'aime beaucoup les Bills ce soir. Moi, j'aime beaucoup les Bills pour remporter ce match-là, qui sont revenus de l'arrière contre les Cards la semaine passée, qui n'était pas un match facile. Mais quand tu regardes Josh Allen, 18 en 23 pour 232, deux touchés, là, c'est efficace.
C'est pas mal textbook.
Puis c'est comme, on se ménage, tu sais. On marque 34 points en étant 18 en 23 pour 232, tu sais. C'est comme, on est loin des performances de Josh où il a besoin de lancer 50 fois puis courir 14 fois, là. Tu sais, on est loin de ça. James Cook couru pas loin de 20 fois. Josh Allen quand même couru 9 fois, mais c'était beaucoup de courses qui étaient organisées pour que, où il sortait de la pochette nécessairement, notamment son jeu... Sur son toucher, donc il y a eu deux touchés au sol aussi. Mais je sens que les Bills sont plus construit autour de Hero Ball avec Josh Allen. Et ça, je trouve que pour eux, c'est très payant à long terme parce que ça tombe en même temps que Pat Mahomes puis les Chiefs. Mm-hmm. En réalité, Pat Mahomes non plus ne joue plus au Hero Ball du côté des Chiefs. Je pense que tu as besoin de ça si tu veux aller loin en séries éliminatoires. Fait que j'aime bien les Bills ce soir. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Parce que moi, je me questionne encore avec les Bills. Je sais pas pourquoi je suis pas vendu, là, mais comme oui, mais c'est peut-être parce que l'année dernière, j'y ai vraiment cru avec leur transfert plus vers le jeu à la, par, la, de, par la course. Puis là, ça a pas fonctionné, puis ils avaient encore des gros weapons. Puis là, j'ai tout le temps eu l'impression que cette année, on était à veille, mais j'ai toujours eu l'impression que... Je sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère à y faire confiance à Josh Allen. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai comme l'impression que souvent il va prendre des risques inutiles dans des moments cruciaux.
Il passerait-tu avec les chars? Lui ou Tyreek Hill?
Non. Oh, ça.
Ou Rushy Rice?
Ben, tu sais.
Ou. Oh, ouais, il y en a une. Il y en a une dans Tabarouette.
Mais.
Henry Ruggs?
Non.
M'envoie sur Instagram Live.
Mais non, mais donc, c'est ça, j'ai encore de la difficulté à y croire aux Bills. J'ai l'impression que, en quelque part, dans tous ces systèmes-là, il y a encore des failles qui font qu'ils vont laisser des touchés inutiles ou qu'il va y avoir des. Je sais pas pourquoi, mais j'ai de la difficulté à y croire. Moi, j'y vais avec les Dolphins ce soir.
Laisse-nous tenter. Ah ouais, tu y vas avec les Dolphins, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que tu y vas avec les Dolphins.
Je pense que les Dolphins sont un peu plus rodés, surtout offensivement. Puis je pense que ça va faire une différence ce soir dans cet affrontement.
Tu vois, regarde, depuis le 19 novembre de l'année dernière, les Bills, une victoire, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, perdent contre les Chiefs, 7-2. Et là, on se rapporte cette année, sont 8-2 dans leurs 10 derniers matchs, en comptant les séries éliminatoires de l'année dernière, depuis l'arrivée de Joe Brady comme coordinateur à l'attaque. Moi, j'aime bien les Bills. J'aime bien les Bills ce soir pour couvrir, en tout cas, puis peut-être même pour l'emporter aux Dolphins, parce que je pense que Josh Allen a le numéro des Dolphins. Puis l'affaire qui est intéressante de faire avec les Dolphins, c'est de ralentir le match. Puis je pense que les Bills sont capables de le faire. On continue avec... on met la table pour le match 49ers-Vikings. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la semaine 1 de Sam Darnold et de Kevin O'Connell. Je les aime pas pour remporter la victoire parce que je pense que les 49ers jouent du gros football. Christian McCaffrey ne sera pas de retour. Mais je pense que les Vikings pourraient très bien couvrir ce match-là et je pense que la ligne était à 5 ou 5.5 récemment du côté des Vikings. J'ai beaucoup aimé la semaine 1 de Sam Darnold, comme je disais. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement une grosse diminution de production entre Kirk Cousins et Sam Darnold. Donc moi, j'aimerais bien prendre les Vikings dans ce match-là. Mais les 49ers ont été vraiment, vraiment impressionnants. Puis on va faire mon power ranking tantôt, un peu plus tard dans le podcast, pour voir où est-ce que, dans ma tête à moi, les 49ers se trouvent. Est-ce que vous aviez quelque chose sur cette game-là?
Non. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai hâte de voir si les Niners ont... En même temps, c'est ça, c'est qu'ils ont démontré qu'ils sont déjà rodés, ils jouent ensemble depuis tellement longtemps.
Ouais.
Puis tu sais, oui, on disait que...
Ils n'ont pas l'air d'avoir été fatigués la semaine 1.
Non.
C'est eux qui avaient l'air d'avoir de l'énergie.
Puis tu sais, on partage qu'ils n'ont pas eu l'opportunité peut-être de pratiquer tout le monde ensemble comme les autres équipes l'ont fait, mais on est en train de dire que les autres équipes sont en rodage présentement dans les deux premières semaines. Donc, j'ai l'impression que ça a peut-être moins d'impact que ce que ça aurait pu être auparavant d'avoir des gars qui justement demeurent en haut d'ordre de même peut-être, étant donné que tu sais, puis je dis ça, puis justement on en parlait tout à l'heure de ce fameux d'à quel point l'impact que ça peut avoir justement de présentement que les équipes utilisent les deux premières semaines comme la pré-saison.
Ouais exact.
Puis que il y a des équipes qui vont pas faire les séries à cause de ça, là.
Ouais.
Tu sais, à cause de ces deux matchs-là qui sont peut-être moins sérieux. Puis on parle des Bengals, là. Tantôt, on parlait, tu sais, de, mettons, des Colts puis des Packers qui, là, vont, il y a une de ces deux équipes-là qui va tomber 0-2. Tu sais, ces semaines-là ont un impact au final sur si tu fais pas les séries, là.
Gros pis impact, ouais.
Fait que je me demande, tu sais, dans ce cas-là des 49ers, tu sais, est-ce que ça a vraiment un impact pour eux,
t'sais? Mais penses-tu, les Vikings, est-ce que, avec le début de saison qu'ils ont eu, est-ce que tu penses que, il remplace les Packers en séries éliminatoires si Jordan Love est blessé pendant 3, 4, 5, 6 semaines.
C'est fort probable. C'est fort probable.
Tu sais, les Vikings. Les Vikings jouent 49ers, après ça, Texans, Packers, Jets, Lions. Fuck off. Rams. Oh my God. Non, les Vikings sont dead. Abort! 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 Bon. Et d'avoir une commotion cérébrale. Laissez faire les Vikings. Short! 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 Non, ça, j'enlève ça tout de suite. Et t'as, j'ai même pas fini, hein? Regardez bien ça, Vikings. Texans, Packers, ben, Jets, Lions, Rams, Colts, Jaguars, je veux dire.
Ben voyons donc. Ça doit être la pire. Ça doit être la pire.
Aïe, aïe. Faut que Shannon Sharp leur remonte le moral. Pas compliqué, hein?
Ok, ok, on appelle Shannon.
On appelle Shannon, on dit là, Sam Darnold a besoin d'aide, là. Va falloir que tu fasses un Instagram live avec lui, je pense. Va falloir que tu re...
Ben écoute, c'est sûr que...
Tu repompes l'équipe.
Ben c'est sûr que, tu sais, ouais, ça, vu de même, ça...
Repomper l'équipe, non? Oh boy! OK.
OK.
Vu de même.
OK, c'est beau.
Ça, je pense qu'on va le garder, finalement, ce segment-là. Prochaine game, Seahawks-Patriots. Beaucoup aimé la première game des Seahawks. Défensive de Mike McDonald a très bien performé. J'ai été... Tu sais... Je pense qu'on a essayé d'aller comme vers la fin de l'ère Russell Wilson. On a voulu devenir comme une équipe qui lançait le ballon. Au début de l'ère Pete Carroll, on courait la balle avec Marshawn Lynch, on était comme une équipe physique. Je me demande si on ne retourne pas un peu vers cette ère-là, je pense, du côté des Seahawks. On ramène Mike McDonald, l'ancien coordinateur des Ravens. Un gars clairement qui a... Tu sais, un coach défensif, souvent, c'est plus porté vers jouer au sol, jeu physique, contrôler l'horloge, jouer de la bonne défensive. Dans ce cas-là, Kenneth Walker, tu sais, 20 courses sans verges, très efficace, 5.2 verges au sol. Défensif qui a vraiment muselé Bo Nix et les Broncos, on en parlera tantôt. Geno Smith, 18 en 25, 171 verges, un TD et une interception. C'est ça que Geno Smith il doit faire.
Ouais, c'est...
Pas plus, pas moins. Une course de toucher. Merci Big Don. That's it. Tu sais, c'est. That's it. C'est pour ça qu'on va recharger et qu'on le paye de même.
Peut-être, oui. Ben oui, Big Don. Big
Let's go,
Don.
Big Don.
Big Don.
Undefeated. Undefeated, Big Don. Vous sortirez un parler tantôt, il va tout donner mal à la tête, puis ça va clencher en plus. Pour deux places, je vous propose de faire un parlay qui vous rapporte 4 millions de dollars.
Ah!
Ouais. Sam Darnold, 200 verges au sol. Et les Patriots, j'ai rien à dire sur les Patriots. Je veux dire,
ils t'ont pas inspiré confiance dans ce.
Ah, mais non.
Moi, c'est mon équipe. Hein. C'est mon équipe, les Pats. Mais, tu sais, c'est mon équipe, mais tu sais, écoute, on est pourris.
Bon,
pourri.
Là, tu jases.
je le sais qu'on est pourri.
Je t'amène vers le bon côté, là. Non, mais ils l'ont, ils en ont sorti une, là. Yeah. Je te l'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit lundi? Patriots ont gagné, bêtez tout le monde contre les Patriots. Non. Ils sont pourris. J'ai pas...
Ils sont nuls, ils sont nuls.
Ben, je pense qu'ils ont... tu sais, Ramondre Stevenson, c'est un bon porteur de ballon. Ils sont capables de courir la balle un peu. Jacoby Brissett, c'est Jacoby Brissett. Tu sais, il va quand même avoir besoin de sa défensive. Mais tu sais. C'est vraiment aussi des games où ils vont pouvoir se permettre de courir autant.
Exact. J'adore que
tu parles une fois de temps en temps. Big Dom.
Puis ça mène à te poser une question parce que les Patriots ont décidé de garder Drake May sur le banc pour le début de cette saison-ci. Un jeune carrière qui vient d'être repêché. Puis ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle hors ronde justement de cette décision-là que prennent plusieurs organisations dans la NFL de faire jouer leur carrière recrue immédiatement sans avoir peut-être la chance d'avoir cette perspective-là de l'extérieur puis de comprendre un peu comment fonctionnent les matchs de saison régulière, comprendre un peu plus le playbook, ainsi de suite, parce que c'est beaucoup en peu de temps là, pour un carrière d'assimiler tout ça. Qu'est-ce que tu penses des équipes qui décident d'insérer leur corps arrière recrue dès le début de la saison régulière de leur première saison? Et est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie?
Non, mais je pense que c'est risqué et je pense que c'est souvent plus une question... d'équipe de management que de carrière. Tu sais, je pense que, par exemple, les Bears essayent de sauver leur job. Tu sais. Je pense que Ryan Poles et Matt Eberflus, le coach, Ryan Poles, le directeur général, Matt Eberflus, le coach, je pense qu'ils veulent sauver leur job. Tu sais, ils arriveraient là avec le premier choix de repêchage, Caleb Williams, ils iraient voir le propriétaire. Je sais qu'on n'a pas eu un bon carrière ici depuis 50 ans, mais je vous propose d'attendre un an de plus. Tu sais.
Ouais.
Les propriétaires, ils sont comme, hey, là, tu sais, là, genre... J'ai été dernier, là. On peut-tu le mettre sur le terrain? C'est souvent cette question-là, je pense. Mais les Pats, Robert Kraft, t'en fous, là. Tu sais, je veux dire.
Ils ont gagné 6 championnats, là.
Il vient de sortir de l'Ive Bill Belichick, ouais. Là. Il sait c'est quoi des mauvaises décisions. Non, je peux pas dire que. Mais dans le sens, tu sais, on se rappellera tous de Bill Belichick, des fois, il faisait des affaires. Tu sais, Malcolm Butler, là. Pourquoi il n'a pas été partant à ce Super Bowl-là? Ah. On l'a jamais su encore à ce jour. Même Butler dit qu'il ne sait pas.
Ah.
Tu sais, je veux dire, il y a des affaires, des fois, que Bill faisait, que tu faisais OK. Mais, tu sais, je pense que Robert Kraft faisait totalement confiance au fait que Bill prenait des décisions pour l'équipe, puis dans le sens, c'était un bon coach. Mais tu sais, quand je regarde, ce qui a coûté le match aux Bengals, honnêtement, c'est deux échappées, notamment une à la ligne de 1. Tu sais, sinon, il marquait un touché. C'est des erreurs stupides. Je suis vraiment pas sûr que les Pats sont l'effectif pour répéter ça à chaque semaine. Donc, je prendrais les Seahawks pour gagner ce match-là. Giants Commanders, ben, j'ai bien aimé la première sortie de Jalen Daniels. De loin, je pense, la première il a gagné d'ailleurs joueur offensif recrue de la semaine. Mais laissez-moi vous dire quelques statistiques sur...
Big Dom.
Big Dom, as usual. Stay classy, San Diego. moi, j'en ai un ici. Daniel Jones. Écoutez ça, Daniel Jones, 6-1. Victoire contre le spread, contre la marge du spread en carrière contre Washington.
Donc, tu me prédis une victoire des Giants?
Moi, je crois pas.
Put your money where your mouth is! Là, t'es en train d'étirer ton temps de droit de... Encore pour dire des niaiseries de même, je t'invite plus jamais. Brian Daboll, underdog 4 fois en carrière contre Washington, toujours couvert le spread par 11 points de moyenne. C'est beaucoup. Là. Puis quand tu regardes, je pense que le match est à 1.5 en ce moment, Giants. Plus 1.5. Après une défaite, 13-5 contre le spread avec les Giants. Washington, 2-8-1 après une défaite de la semaine 1 en carrière. Mais par exemple, Washington, c'est le pire stand pour la marge de victoire. Où seulement 40, il court à seulement 41% à la maison. J'aime peut-être les Giants dans cette game-là. Mm. Parce que j'aime bien Brian Daboll. J'adore le coach Brian Daboll. Je trouve qu'il est excellent. Il était coordinateur à l'attaque avant des Bills. Il a fait un travail super avec Josh Allen. C'est sûr que j'aime pas Daniel Jones. Mais ça reste quand même que Washington a quelque chose de spécial en ce moment. Nouveau coach, nouveau coordinateur à l'attaque, nouveau carrière et qui est recru. C'est beaucoup, beaucoup de peut-être, là. T'sais, peut-être que ça va fonctionner. Je les ai mis comme équipe surprise de l'année.
Mais c'est ça, là.
Pour
c'est...
se rendre. Mais faut que je suive. Est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je suis ma tête, tu sais? C'est ça l'affaire. Donc,
là, est-ce que c'est un désaveu, là? Un désaveu.
De Washington.
Sitôt, là.
J'ai vraiment pas aimé la performance de la défensive contre les Bucks. Ils se sont fait traverser.
Ouais.
Puis moi, Dan Quinn, c'est un coach défensif. S'il n'est pas capable de rehausser cette défensive-là, Washington n'a aucune chance.
Ouais.
Ça, c'est garanti.
On va le savoir, c'est
aucune chance. C'est ça. Moi, je les mettais top 5 défensifs de la NFL avec l'idée que je me faisais qu'ils pouvaient peut-être faire une percée. Mais s'ils sont pour jouer de façon aussi poreuse que ça, en défensive toute l'année, ils vont se faire traverser.
Non, parce que Jalen Daniels n'est pas encore prêt à carry cette équipe-là.
Non, pas du tout. Mais quand même, a démontré des belles affaires quand tu regardes sa première semaine. Le 17-24, efficace. 184 verges, pas de revirement. 2 courses au sol pour des touchés. 16 courses, je trouve ça bien trop, par exemple. C'est trop. Oui. C'est c'est sûr que ça va mal finir. Puis il n'y a pas la carrure de Josh Allen, ce gars-là, du tout. Donc, 16 courses, 88 verges. Pour Ducci, moi, je trouve que c'est trop. Donc, ils doivent exploiter beaucoup plus, je pense. Austin Ekeler, il signe, il donne 2 fois la balle. Je pense que c'est pas assez pour courir le ballon de ce côté-là. Mais c'est tout à la défensive. Si Dan Quinn n'est pas capable de rehausser ça, je pense que les Commanders sont morts. Parlons de Chargers-Panthers. On en a parlé brièvement tantôt. J'ai pas détesté la première semaine des Chargers. Clairement, l'air Jim Harbaugh est là. Ils vont courir la balle. Ils vont pas nécessairement être. Ils vont vouloir garder le contrôle du ballon. Ils vont vouloir jouer physique. Ça, c'était quelque chose qui était peut-être à prévoir. Est-ce qu'ils vont être éclatants? Non. Est-ce qu'il reste quand même qu'ils ont Justin Herbert dans leur équipe? Oui. Les Panthers, ben, ça va être à voir. Là. Je pense qu'ils ont des billets à comme 1,50.
Ouais, c'est sorti cette semaine. Là. C'est comme 90 cents de billets. Une paire pour 1,80.
C'est quelque chose quand même. Là. Non, mais ça va tellement mal de leur côté. Là.
Mais tu sais, quand on en parlait un peu tantôt, ils sont exactement là où on aimerait qu'ils soient.
Ouais, on a besoin d'eux, en fait.
On a besoin d'eux comme ça.
T'as raison. Ah, mid-season form pour les Panthers. C'est vraiment, on s'attendait à rien de moins. du côté des Panthers de la Caroline. Fait que je m'attends à une victoire assez facile des Chargers de ce côté-là, encore une fois. Saints Cowboys. Ben écoute, les Saints ont été vraiment impressionnants. Très, très impressionnants la première semaine. Non seulement au niveau de la victoire, là, de la marge de la victoire, mais aussi quand tu regardes justement, ils ont eu la ligne à l'attaque numéro 1 classée pour la première semaine dans leur ratio de protection du corps. Les Cowboys ont bien joué contre les Browns, pas nécessairement flamboyants, ils ont eu deux revirements qui leur ont donné quand même le match. 19-32 pour Dak Prescott, 179 verges, un touché, ça vaut absolument pas 60 millions, là, j'espère qu'on s'entend là-dessus. Là. C'est ça. On sentait quand même pre-season form là, du côté de Dak Prescott. Puis moi, j'ai des statistiques vraiment intéressantes sur Dak. Parce qu'il est vraiment, c'est vraiment spécial comme corps. Tu sais, c'était pas un corps qui a été repêché très haut, mais regardez ça. En carrière, Dak Prescott est 65-17 quand son équipe court plus de 100 verges dans un match. 65-17.
Ouais.
Clairement, c'est un carrière qui a besoin de son attaque au sol. On le voit de même. Parce qu'à l'inverse, 9-24 quand son équipe ne court pas 100 verges. La différence est quand même immense. Là. Ouais. 100 verges. C'est beaucoup 100 verges quand même à réussir dans la NFL. Là. La performance des 49ers, c'était 150. Là. Juste, ouais. C'est beaucoup quand même 100 verges. Regardez bien ça. Si son équipe court plus de 30 fois dans un match, 53-7. Imbattable. 30 courses, donc on parle même pas de succès. Là. On parle de 30 courses. Donc,
ouais.
Il a besoin de feinter sur ses lignes, sur ses jeux au sol. Il a besoin de donner la balle à ses porteurs de ballon pour que Dak et les Cowboys aient du succès. Moins de 30 courses, 20-34, ça affiche. Puis quelqu'un me partageait une stat cette semaine, je ne me rappelle plus où exactement. Je vais essayer de la retrouver, mais quelqu'un m'envoyait comme les 50 derniers matchs de Pat Mahomes, puis les 50 derniers matchs de Dak. Puis les statistiques étaient comme tellement comparables, tu sais. Puis là, j'ai regardé Pat Mahomes. Pat Mahomes, en carrière, s'affiche quand son équipe court moins de 100 verges, 55-22. Donc lui, ça ne fait pas un pli. Donc clairement, Dak a besoin d'une attaque au sol pour être performant. Ben, tu sais, non, Tony Pollard est parti. Ezekiel Elliott, il n'est pas dans la forme qu'il était avant. Sinon, il ne leur reste rien. Fait que je sais pas comment ils vont faire pour... En gros, c'est comme on te donne 60 millions puis on veut que tu sois ce que tu n'as jamais été capable d'être.
Ouais.
C'est un peu ça qu'ils lui demandent, là. Puis quand tu regardes au niveau de... Ben, ça va passer par CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Jake Ferguson, la ligne rapprochée. Tu sais, ça va passer par ça, mais ils n'ont pas nécessairement tous les outils nécessaires. Ça passe par CeeDee Lamb, en fait, là. Pollard manque beaucoup. Puis... Et ils ont perdu Tyron Smith aux mains des Jets. Ils ont perdu des joueurs de ligne à l'attaque aussi.
Ouais.
Fait que j'ai bien hâte de voir. Moi, je serais pas surpris de shorter les Cowboys assez rapidement dans la saison. Peut-être même contre les Saints. On verra. Les Saints ont tellement eu une bonne première game. Je pense pas que je parierais sur ce match-là. Passons au prochain match. Colts-Packers. J'aime beaucoup, beaucoup les Colts. Comme je vous disais tantôt, les Colts ne sont pas capables de gagner en semaine 1 depuis 2013. Ça a été... cette statistique-là, on a trouvé cette statistique-là. Les Colts, semaine 1 de l'année, pas gagné depuis Andrew Luck en 2013. Semaine 2, 6-1 depuis 7 ans, exactement depuis l'arrivée du directeur général Chris Ballard. Donc, je m'attends à ce que les Colts rebondissent pour la semaine 2, et ça tombe bien parce que c'est contre Malik Willis, fort probablement, et Green Bay, qui va jouer 19 jours après son arrivée à Green Bay. Fait que je pense que tout est en place
Malik.
Pour que les Colts gagnent leur deuxième match et malheureusement, les Packers perdent et tombent 0-2. Browns-Jaguars, écoute, les Browns, c'est encore une autre poursuite criminelle de DeSean qui sort cette semaine. Beaucoup de distractions. Il a été épouvantable. Il ne joue plus à la hauteur de ce qu'il a déjà été. Je pense que c'est trop là, les affaires. Écoute, ça sort tout le temps. C'est peut-être impossible pour lui de revenir à ce qu'il était, puis je pense que ça va le caler à vie, là.
Mais...
Exact, écoute, même je me souviens de son coach à Clemson, comment il s'appelle d'ailleurs? Dabo Sweeney, ouais, Dabo disait que c'était Michael Jordan. Genre, repêchez-le, ratez-le pas, c'est Michael Jordan. Mais, tu sais, je veux dire, je pense qu'il reviendra plus jamais À ça, je pense que c'est mental plus qu'autre chose. Il n'en attend plus du tout. Complètement garanti 230 millions et ils ne peuvent pas s'en départir.
C'est 100% le pire contrat de l'histoire.
Jusqu'à maintenant, c'est 100% le pire contrat de l'histoire, mais Dak s'en vient pas loin derrière. Là, si...
Ouais, mais tu sais, Dak, au moins,
il n'y aura pas tous les problèmes. Quand tu regardes okay, le contrat de Deshaun Watson, okay, le dead money là, qu'on appelle, là, si jamais il voulait le couper, là, dead money. 2024, c'est cette année. S'il le coupait cette année, ça serait 200 millions de dollars.
Aïe, aïe.
Sur le dead cap. Okay? Donc, le dead cap, ce que ça veut dire, c'est que tu as comme une amende à chaque année qui s'ajoute, que tu dois payer l'entièreté parce que tu te défrais de ce gars-là. Si c'était l'année prochaine, 172 millions. Donc, ils sont pognés encore jusqu'à l'année prochaine. L'année d'après, 99 millions. On est rendu en 2027, 26 millions. Donc, ils vont peut-être essayer de le couper en 2026. La seule façon qu'ils pourraient le couper, ça serait avant le 1er juin où ils devraient 26 millions de dead cap et non pas 99. Mais dites-vous que cette année, l'année prochaine, Deshaun Watson est assurément sur les Browns.
Ça va nulle part. Là.
Et l'année prochaine, ça leur coûterait 100 millions s'ils le coupaient avant le 1er juin. Avant le 1er juin. C'est quand même 100 millions de dead cap, là.
Mais ça
c'est assez extraordinaire. C'est plus que ce que Denver ont absorbé ce contrôle Russell Wilson et c'est sûr ça va leur faire mal. Baker est en train de tout casser de l'autre côté. Jaguars, ben moi j'ai trouvé qu'ils ont bien joué contre les Dolphins. Ils ont limité l'attaque au sol des Dolphins, quand même perdu 27. Mais dans tout ceci étant dit, clairement les Dolphins ont un gros avantage du terrain. Ça n'a pas vraiment paru. Là. Les Jaguars sont restés dans le match tout le long. Là.
L'échappée d'Étienne a fait mal.
Ouais.
Le fumble à ligne de 3, puis ensuite de ça, c'est un swing de 14 points. Là. Si on allait faire un toucher directement après, là, ça, c'est des graphiqueurs, c'est des momentum swings que tu peux pas te permettre. Puis, je pense que c'est une raison pour laquelle, après ça, Tank Bigsby a couru le ballon, je pense, 12 fois au total dans le match.
Ouais.
Je pense que c'est une raison pour laquelle il y a eu un peu plus de workload, là, malgré que ouais. Peterson a dit qu'il voulait que Étienne ait un peu moins de responsabilité cette année. Là, mais...
mm-hmm. Ouais, non, exact. Moi, j'aime bien les Jags. J'ai bien aimé leur performance contre les Dolphins. Puis j'aime les Jags dans ce match-là. Jets-Titans. Ben écoute, les Titans, malgré la défaite, j'ai bien aimé leur premier match. Les Jets, faut absolument qu'ils rebondissent de cette semaine 1-là parce qu'ils ont vraiment laissé tomber un peu les attentes de leur côté. Du côté des Titans, ben pas beaucoup d'attentes. Big Will. S'il y en a qui se demandent pourquoi on l'appelle Big Will, je vous invite à aller voir dans nos premiers épisodes ou à aller voir sur Internet. Vous allez trouver des choses qui ressemblent un peu à ce que Shannon Sharp a fait avec Michelle il y a quelques jours.
On pourrait dire que c'est dans la même veine.
Oui. C'est dans la même veine, exactement. On est dans les veines. Mais, tu sais, on parle d'interception du côté des Titans, de revirement, d'unités spéciales aussi qui ont causé leur défaite. C'est des affaires qui se règlent rapidement, ça, tu sais.
Ouais.
Fait que je pense que la cote est à 3,5 en ce moment. J'aime quand même les Titans pour rester dans le match. Buccaneers-Lions. On répète le match de série de l'année dernière. Buccaneers, Baker Mayfield, on fire. Depuis, je pense, 9 matchs. Regarde, on regardait 4 passes de toucher semaine 1 cette année. C'est 11% de toutes les passes de toucher qui ont été lancées. C'est le seul, honnêtement, qui a joué un match.
Ouais.
T'sais, comme
au-dessus de ses capacités.
Ben, dans le sens qu'il a joué un match comme un carrière étoile. Là.
Ouais.
S'il n'avait pas sorti. Ouais, fait que Derek Carr, Baker Mayfield, meilleur carrière semaine 1.
Ça y est.
Arrêtez ça là tout de suite. Mais Baker Mayfield, en tout cas, il est à sa place aux Buccaneers.
Ah oui.
Je pense qu'ils sont bien en avance du côté des Falcons, en tout cas de ce qu'on a vu de semaine 1 de chaque côté là, dans leur propre division. Là.
Ils ont bien fait
de signer Baker à un prix qui leur est très avantageux jusqu'à maintenant. Là.
Puis Mike Evans... C'est en train de s'assurer de plus en plus d'une place au temple de la renommée.
Ouais. Je pense à Constance.
C'est comme ça n'a pas de sens là.
Être assuré, je pense.
Ben oui.
Mais c'est juste. Mais moi, ce qui me fait capoter là, avec mille verges, là, c'est que si tu fais le calcul vite, là.
Mettons là. Sans la calcul.
Là, on est rendu à 17 matchs. C'est 58 verges par game. Non. Faut que tu ailles 1300 verges maintenant. Là. Le 1000 verges d'avant, là. Là, c'est 1003 dans ma tête.
C'est 1003?
Ouais. Si t'es en haut de 1002, mettons, là, on se dit-tu 1002? Call off à 1002? 1002.
J'aime ça. Le 1003, c'est le nouveau 1000.
Ouais, 1002, ouais, exact. C'est comme maintenant, le 50 is the new 30. Fait que, mettons 1000, on est à combien, là? 70? 1002, c'est 70 verges par game. Comment ça tombe dans quelque chose qui a de l'allure, là? Là, t'es un joueur dominant, je pense. 1375. Moi, j'irais peut-être là, même. Toi qui es Big Down, tu fais des parlays, là. 75 verges over,
c'est quand même... Big Down, c'est 1002 ou 1003?
Ouais. Vas-y. OK, fait que 90-100.
Mais tu sais, si l'event week 1, je pense que t'es à 72, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est souvent les receveurs étoiles, là, leur code va être en haut de 60, en haut de 70.
C'est ça.
Tu sais, à part des séquences, tu sais, l'année passée, les deux rounds, une séquence de 5 matchs, ouais, tu faisais en 150 games, 150 verges par game.
Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Exact. Ça couvre leur année au complet. Mais des fois, les gars, ils font 1800 maintenant dans l'année, là.
CD.
75 verges par game, c'est 1275. On accepte-tu 75 verges maintenant, c'est le new 50? 75, c'est élite? OK, mais tu s'en vas au temple de renommée en étant élite. Fait que si tu fais 58 verges par game, t'es pas élite, là.
Mais...
Prime time, là, 58, là.
58, c'est rien, là. Tu peux même plus toucher au receveur, tu peux même pas toucher à rien, tu sais, tu peux rien faire. Les gars, 58 verges, ils sont même pas touchés, ils sont même pas claqués, ils font rien. Ouais, ouais, mais c'était souvent. Ouais, c'était souvent bien flush, là.
Mikey!
Mais moi, je l'aime bien, Mike Evans, mais j'ai jamais trouvé que c'était un gars qui changeait la loi d'une game, tu sais. Un bon gars de red zone, puis c'est un gars que tu savais qu'il pouvait être fiable. Ouais. Disons ça comme ça.
Mais il a toujours été un bon duo avec Godwin. Tu sais, t'avais Godwin qui est plus un gars dans le plot, qui va chercher comme des caches de 7-8 verges, puis Mike stretch le field.
Mais tu regardes ça là. 2023, Mike Evans, 1255, 1124, 1035, 1006, 1150, 1500, 1000, 1003, 1000, 2000. Il est dans le 70 verges par game.
Oh, il se graisse.
65, 70 verges.
Il se baigne. Il est dans la piscine, puis il a les pieds dedans.
Ouais, il se baigne, il y a un petit margarita à côté, puis il est gars. Pas si t'as fait ça, faire ce que je fais. C'est encore élite. Puis tu vois, les saisons, il y a eu une saison de 12 touchés, 13 touchés, 14 touchés. Sinon, en bas. 13 touchés aussi en 2023. Non, il est bon. Mais j'irais, il irait toujours au temple de la renommée dans ma tête. Je pense qu'il, même tout de suite, il irait au temple de la renommée, là. Ouais, par sa constance. Fait que, mais Lyon, par exemple, Jared Goff, carrière le plus performant à la maison contre le spread. Pas à prendre à la légère non plus. Mais Baker joue du très gros football et ça va être comme un peu leur revanche de l'année dernière. C'est quoi, mettons, Big Don, toi, tu dis-tu, je pense que c'est plus 6,5 la ligne, tu la donnes à qui?
Ah, mais c'est
ça, les Lions. Ouais, 6,5. Les Bucks, donc tout le monde a entendu, c'est les Lions qui vont gagner moins 6.
Donc, les Lions vont gagner, mais je prends les Bucks.
Mais c'est ça, exact. Donc, mais Buccaneers-Lions, je pense que ça va être un excellent match dimanche à 1h. Ravens-Raiders, je pense que les Ravens vont claquer les Raiders.
Ah ouais.
C'est mon intuition, ils vont se remettre de là-bas, ils vont encore être...
Je pense que c'est la claque.
I don't think that toe touched the line, boy. I think we won that game, man. Avec les cheveux comme ça de le bar. Puis Isaiah Lalique qui dit, man, if that's all they got, I think we're gonna get him again in the playoffs. Dit Isaiah, qu'est-ce que tu fais depuis 3 ans? 5 ans? Tu connais pas le gars avec les cheveux frisés l'autre bord qui s'appelle Pat Mahomes? Arrêtez de leur donner des clips bait aux Chiefs. Sacrément, on va être accompagné à Taylor Swift encore dans la loge, encore un autre Super Bowl. M'énerver avec toutes vos affaires, là. C'est qui, là, qui a dit ça des Bengals?
Le DB des Bengals. DB des Bengals qui a dit.
Ben oui, mais il va vite dans ta barouette! Tu sais, arrêtez donc de dire des conneries, les gosses. On essaie de faire en sorte qu'ils gagnent pas, sacrément. À chaque semaine, vous arrêtez pas de leur dire des affaires. Faut chier. J'essaie toute ma vie les aider. Tout le monde les aide à, comme se créer des monstres, là. Arrêtez! C'est qui le taouin des Bengals qui a dit ça? C'est qui le tweet? C'est qui ce casse?
Je me souviens pas c'est quoi son nom.
Hey, fait chier quand même, là.
Ah non, mais lui, encore
même. C'est elle à qui? J'avais déjà été craqué, là. Jusqu'à la fin. Le gros colon.
Il était déjà craqué jusqu'aux séries, puis là,
il y en a un qui s'est dit... Bengals en remet, là, tu sais. Pas assez. Thierry Wardy, il est vite, mais ça se fait qu'il peut faire sa main droite. Ah, ils adoraient ça.
Ils sont chiés.
Ah, ils font chier, là. Ils font vraiment chier, là. Sérieux, là, j'essaye fort de faire en sorte que ça... d'aider tout le monde en fait à battre les Chiefs, ils mettent tout pas. Là,
personne veut.
Personne veut.
Ah non, mais les Lions, par exemple, pour revenir à ce qu'on disait,
oui.
J'ai de la difficulté à les voir perdre cette semaine encore. Ils m'ont vraiment impressionné week 1. Puis tu sais, les autres années, c'était souvent la culture qui les mettait un peu au-dessus des équipes qu'ils allaient affronter. Puis l'année dernière, ils ont fait un beau parcours éliminatoire. Mais moi, offensivement, je pourrais, là, puis avec l'émergence de Jameson Williams, s'ils continuent de même, là, ils sont tellement versatiles avec les weapons qu'ils ont offensivement. Là.
Ouais.
T'as Gibbs, t'as Montgomery qui est capable d'être physique aussi. Après ça, Amon Ross and Brown n'a même pas été productif lors du dernier match. Comme ils sont rendus avec tellement d'options à l'offensive. Puis en défensive, je veux dire, si Hutchinson continue à rush de même, là, ben crime, t'as pas le temps de lancer le ballon. Là.
Ah, il a tellement été bon pour un
sort. Ah, puis ça,
mais tous les gars étaient blessés aussi. T'sais.
Aussi, tu sais.
Mais les Bucks, Tristan Worth, c'est un des top 5 de la ligue.
C'est vrai. Justement, Hutchinson, là, je veux dire, comment tu perçois le fait qu'il soit capable d'être aussi bon à sa position, tu sais?
Tellement technique, là.
Technique, mais de quelle façon, genre, parce que tu connais évidemment beaucoup la
ben, quand tu regardes son jeu de pied, ses mains sont toujours placées au bon endroit. Son jeu de pied est tellement précis quand il pass rush.
OK.
Où c'est toujours, tu sais, 1-2, il va faire son truc. 1-2-3, il va faire son truc. Tout est, okay. est précis, timé. Son spin est incroyable. Il l'a vraiment maîtrisé des deux côtés. C'est pas un gars très physique sur le coin, mais c'est un gars qui est très technique. Puis il va jouer avec son aspect physique pour créer des feintes qui vont lui rapporter fruit. Mais il est très technique. Puis il a pris du poids aussi depuis Michigan.
Okay.
Il est plus large qu'il était à Michigan. Là. Fait qu'il s'entraîne, continue à grossir. Pour moi, ce gars-là a sensiblement les mêmes qualités que TJ Watt à Pittsburgh.
Okay.
Faut juste donner du temps un peu à Hutch, mais c'est des gros gars techniques. Là. Je pense pas. Même Miles Garrett, je pense pas. Même Micah Parsons, je pense pas. Il est tellement dominant. Il est capable de faire tellement d'affaires.
C'est chaque jeu, tu le vois quasiment.
Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment, écoute, la différence entre les Steelers quand il est là et quand il est pas là est tellement phénoménale. Nick Bosa a fait pas un match comme ça. Miles Garrett a fait pas un match comme ça. Hutchinson non plus. C'est vraiment spécial, TJ Watt, ce qu'il fait. Mais il fait vraiment ce qu'il veut, par exemple. Faut quand même lui donner, là.
Ouais.
Il a pas vraiment de livre de jeu, TJ Watt, là. Il fait ce qu'il veut, là. Des fois, il se place. Des fois, écoute, je l'ai vu contre les Falcons. T'as le bloqueur, comme ça, à droite, qui finit la ligne, là, tu sais, comme ça. Puis là, t'avais genre Carl Pitts à deux verges. Puis lui, il était à l'extérieur de Carl Pitts, dans genre. Moi, je suis à 5 verges.
Là,
je m'en sac carrément.
T'as le DC qui est comme, qui check sa feuille comme on a ça.
Non, le DC, il dit. Ben, je sais pas, là, tu sais. J'y dirais pas quoi faire, là.
Non, c'est ça.
Tu sais, c'est ça. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis il est assez athlétique souvent pour revenir dans le jeu, pour pas se faire trop brûler. Fait que. Mais TJ Watt fait ce qu'il veut parce que il fait tout.
Ouais.
C'est pas compliqué. Fait que on parlait des Ravens. Je pense que les Ravens vont traverser les Raiders. Rams Cards, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, les Rams tellement blessés. On les a mentionnés tantôt. Cards, moi j'aime beaucoup cette petite équipe-là.
Ouais.
Moi, je pense qu'il aurait très bien pu gagner contre les Bills. Bills sont remontés. Mais je pense que les Cards, Kyler Murray, on parle de Marvin Harrison Jr., pas donner la balle beaucoup à Marvin Harrison Jr. Quand tu regardes Marvin Harrison Jr. jouer, c'est pas démarqué beaucoup, là. Un des receveurs les plus lents. Cette fin de semaine, ça a été Marvin Harrison Jr. dans les statistiques avancées.
Ah, ouais, hein?
16 miles per hour de en moyenne de ses tracés. Puis quand tu parles de Tyreek Hill, c'est en haut de 20. C'est Jalen Waddle, c'est en haut de 20. C'est quand même 10 km de moins là, à peu près là, que d'autres receveurs en moyenne dans tous ses tracés. C'est un vrai gars de possession. Je pense pas que c'est un gars qui va brûler quelqu'un, mais c'est un vrai gars qui va jouer ses tracés puis qui va jouer dans la possession. Mais ça serait le fun de voir ces deux-là connecter un peu pour voir ce que Marvin Harrison est capable de faire dans cette ligue-là. Mais je ne serais pas surpris que les Cards gagnent ce match-là. Chiefs Bengals, on en a parlé un peu en début d'émission. Bengals, honnêtement, c'est. Il y a une statistique qui me fait capoter de Joe Burrow, par exemple. C'est quoi tu me disais, Big Dog, par rapport à Zach Taylor la première semaine? Les deux premières semaines. Deux premières semaines. Donc, ils sont tout le temps pourris les deux premières semaines de l'année depuis que Zach Taylor est là. Puis c'est des grosses games là qu'ils perdent. Là. Tu peux pas
mais oui.
Les Pats.
Mais non.
Puis espérer passer en avant des Ravens dans ta division. Tu peux pas.
Non.
Tu sais, à la limite, fais jouer Joe Burrow puis tes gars un peu pendant la pré-saison. Une série à toutes les games. Fais quelque chose.
Mais oui.
Tu peux pas continuellement être mauvais en début de saison parce que le foot, c'est 17 matchs. C'était 16, c'est rendu 17. Au baseball, tu perds 24 games de suite.
Ouais.
Bon, regarde, on se fait une chic. C'est pas grave, on va en prendre.
On se fait une petite chic.
On se fait une petite chic.
On se met chic.
On se met chic, on se fait une chic. on fait ce que Shannon Sharpe fait. mais au football, tu peux pas faire ça. Puis l'année, tu sais, je suis sûr que ça les rattrape dans le sens où semaine 3, OK, faut presser, là. Faut ouais. y aller plus, faut faire plus. Qu'est-ce qui arrive? Joe Burrow, il se blesse. Mm. Tu sais, je veux dire, à force d'être stressé, à force de mal commencer l'année puis tirer de l'arrière, dans une division que tu as toutes des bonnes équipes, là, ouais. tu tires dans le pied, tu n'as pas le temps de faire ça. Là.
Ouais.
Mais regarde, Joe Burrow, là, 5 erreurs en carrière contre Josh Allen et Pat Mahomes. Mm. 0-5 contre Jacoby Brissett puis Baker Mayfield. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Là.
Ah, puis ça, c'est frustrant. Là.
C'est frustrant. Parce qu'il joue pas à la hauteur.
Comme fanbase, là. Tu vois ça, puis même comme mettons, comme coéquipier, peu importe, tu le ressens dans ta préparation généralement quand il y a un. Il y a moins de sérieux qui y est mis. Puis c'est clair, que c'est ça aussi.
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr et certain.
Exact. Puis là, t'as, en plus de ça, t'as le demi de coin qui dit que Xavier Woody est pas vide. Bon, quand, tout le monde le connaît, lui, hein, d'ailleurs. Quand t'es le
British. La briteuse. La briteuse. Y'a-tu un brita chez eux?
La brouteuse ou la briteuse?
Oh, un peu des deux.
Ah, la brouteuse, je pensais que tu parles encore de Shannon Sharpe.
Ah, ça, non. C'est la veineuse.
Oui. Shannon Sharpe était en train de manger de la tourtière. On l'a pris en plein atelier de cuisine, le petit cochon. Steelers-Broncos. Écoute, Steelers, je pense pour moi, ils jouent pas à la hauteur du Steeler way. Là. Moi, j'ai connu. Reprends-toi, Pepper. Pepper, c'est un gros gars de tourtière. hein? Je suis ton sensible, hein? Te connais, mon petit cochon? Steelers, je m'en cause. Steelers, 6 placements dans leur dernière game. Moi, je suis tanné dans la tabarouette d'avoir essayé de jouer de la défensive, là.
Je pensais d'aller.
Sacrément, Mike Tomlin dehors, je suis plus capable. C'est plate à mort! Quoi?
Je pensais d'aller dire, je suis tanné de voir des field goals, j'étais comme, ok.
Non, mais ouais, ça aussi, je suis tanné. Non, mais c'est plate à mort! Moi, j'ai grandi avec des Steelers, ouais. là. Ça, je disais dans le show de lundi. Je pensais que des Steelers, Ben Roethlisberger, Joe Bettis, Le'Veon Bell, Santonio Holmes, Hines Ward, Antonio Brown. Tu sais, j'ai grandi avec ça, là. Là, il n'y a rien.
George Pickens. Le piqueur.
Le gars le plus bizarre de la NFL. Dans son draft day, tu savais-tu, il a regardé son draft. Il a sa cagoule. Parti, il avait l'air du méchant dans Despicable Me. En tout cas.
Toute l'année passée, la semaine passée,
Ah ouais, hein?
Les Broncos, ça?
Big Don, ça commence à te coûter cher des temps de parole, là.
Ouais, va y mettre un micro, là.
Ouais, mettre un micro puis un bouton pour que je puisse enlever son micro.
Le mettre sur mute un peu.
Moi, l'affaire.
Tu parles un peu, mais il est sur mute.
Ouais, c'est ça. Moi, l'affaire qui me fait un peu capoter du début de saison des Broncos, Bo Nix, hein, carrière de Oregon, qui était très reconnu. C'est lui qui a battu tous les records l'année dernière à Oregon pour toutes les passes derrière la ligne de mêlée ou sur la ligne de mêlée. Okay. C'est un gars qui est très précis dans les zones courtes. Mais, tu sais, Sean Payton, il demande de lancer 42 fois à son premier départ. Mm. Moi, 42 fois pour 138 verges. Je calculais tantôt, là, c'est 3.2 verges la passe tentée. La même semaine, Pat Mahomes, 10 verges la passe tentée.
Ouais.
Tu sais, quand tu parles d'efficacité, pour ça, j'en verrais mon carrière recrue lancer 42 fois dans son premier match en carrière. Mm. Puis tantôt, Big Don m'a sorti 2-12 sur des passes de plus de 10 verges pour Bo Nix, notamment 2 interceptions. En haut de 10 verges, là.
Ouais.
Pas 25, là. 10. Tu sais, 10 verges, je peux vous le faire ici, là. C'est 10 verges. C'est pas si loin, là.
Non.
Fait que Bo Nix complète juste en bas de 10. Pense-moi y aller, moi aussi. Au camp des Broncos.
Ça me fait penser à Mac Jones.
C'est ça, fait que. Je sais pas à quoi ça va ressembler contre les Steelers. Moi, je pense que les Steelers vont gagner cette game-là. Je pense que leur défensive est juste trop forte. Puis contre un carrière recrue, TJ Watt, qui va l'agresser toute la journée. Hey, Steelers contre les Falcons, 48% de pression sur Kirk Cousins.
Mm.
Tous les jeux de passe, 48%. Presque 50%.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Tu sais, puis les Falcons ont toutes des meilleures lignes à l'attaque de la NFL, le top 5, là. Mm. Ce que les Broncos n'ont pas.
Les Broncos.
Steelers, il nous reste 2 games à couvrir. Bears, Texans, et après ça, je vais faire mon power ranking en ce moment dans la NFL. Bears, Texans, Bears, je pense qu'ils ont été un peu très chanceux de gagner cette game-là. Texans, au contraire, m'ont beaucoup, beaucoup impressionné. CJ Stroud, il y avait une statistique qui était intéressante de CJ. CJ Stroud était 9-9 sur troisième essai en fin de semaine passée. Mmh. Notamment deux touchés. Fait qu'il a été hyper performant quand c'était le moment de l'être. Puis j'ai beaucoup aimé. Tu sais, il donne la balle 30 fois à Joe Mixon.
Ouais, pas hésité. Là.
On a parlé de Nico Collins, de Tank Dell, de Stephon Diggs. 30 fois Joe Mixon.
Ouais.
Mm-hmm.
Les passes pour lui, c'est des 3-4 passes qu'il a frappé. C'était moins que 5.
Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est intéressant, ça. Mais ils ont été très efficaces, en tout cas. Le CJ Stroud a été très, très efficace. Distribué le ballon. J'ai beaucoup aimé ça. Les Texans sont remontés dans mon power ranking, honnêtement. C'est vraiment, je pense que c'est une très, très bonne équipe cette année. Menée, en plus, c'est cool dans cette formation-là. Tu sais, t'as un coach défensif qui comprend l'attaque. Bobby Slowick, le coordinateur à l'attaque qui vient des 49ers, implante cette offensive-là. Puis t'as un CJ Stroud qui ne se met pas dans des positions comme Jaylen Daniels, comme Lamar Jackson. Puis il est capable de courir, là, tu sais, mais il reste dans la pochette puis il fait sa job avec une bonne ligne à l'attaque. Et j'aime beaucoup les Texans. Puis Falcons, Eagles pour finir ça.
Les Falcouilles.
Donc les Falcouilles, ça a été désastreux là, la semaine passée quand tu penses à ça. Puis moi, j'ai vu une affaire qui était vraiment intéressante. Okay? Kirk Cousins a été en pistol 52% des jeux. Okay? Ouais. Pistol, pour ceux qui ne comprennent pas, même peut-être pas
les... Oh!
Dessiné la flèche. Pour les gens qui veulent comprendre, en réalité, là, t'aurais comme le corps arrière, qui est à 5 verges en shotgun, et t'as le porteur de ballon qui est juste en haut de lui. Okay? C'est une formation qui est pistol, à 2-3 verges. Il a été 50% des jeux en pistol, et jamais dans sa carrière, pendant 13 ans, il a fait ça 10 fois avant cette formation-là. Pourquoi? Parce que Kirk Cousins, c'est un corps qui est en dessous du centre d'habitude, qui aime se servir de ses feintes, qui aime se servir de ses pieds, mais il revient d'une blessure quand même assez sérieuse au tendon d'Achille. Pistol et shotgun, Falcons contre les Steelers, 96% de leur jeu. En shotgun, zéro course. En pistol, 81% des courses. Qu'est-ce qui se passe du côté des Falcons? Je regardais même. Dans les seuls carrés en shotgun de la NFL qui part avec le pied gauche en avant, c'est Aaron Rodgers, ou à peu près, je pense que c'est l'un des seuls qui part avec son pied gauche. La plupart des corps passent avec le pied droit en avant, OK, pour pouvoir prendre, retourner, prendre tes pas et pousser un peu deux pas pour retourner en arrière. Le seul qui prenait toujours ses shotguns avec les deux pieds parallèles, c'est Peyton Manning, que je me rappelle. Pourquoi? Parce que Peyton Manning n'était pas très athlétique. T'es pas capable de pousser puis prendre la profondeur sur ses jambes. Fait que commençait un peu comme s'il était assis sur un cheval, là. Puis il faisait « Omaha! Omaha! » Tu sais, en plus de ça. Ben, j'ai été étonné. Kirk Cousins n'a jamais fait ça de sa vie. Puis en fin de semaine, il a été placé en cowboy, comme Peyton, en shotgun, toutes les fois. Donc, il poussait pas sur son pied. Puis ça m'inquiète parce que je me demande, comme j'ai dit à Pepper le lundi, j'ai deux théories par rapport à ça. Un, ils veulent saboter Kirk Cousins puis rentrer Michael Penix Jr. Ou deux, son tendon d'Achille n'est pas correct. Je vois pas vraiment d'autres possibilités qui font en sorte que il y ait autant eu un changement drastique dans son côté technique aussi loin dans sa carrière. C'est ça que je comprends pas un peu du côté des Falcons. J'ai absolument rien compris. J'ai vraiment pas aimé leur première sortie. Je trouve qu'ils ont été mauvais pour utiliser leurs ressources. Puis il faut pas oublier que, c'est quand même assez important, Kirk Cousins en match prime time.
Cette fameuse statistique.
Épouvantable. 16-25 contre le spread. N'est pas capable de se faire genre... C'est un gars très routinier. Je sais pas si vous l'avez vu dans quarterback. Là.
Ouais.
C'est très, très routinier. Puis je pense que les matchs à 8 heures, ça le sort complètement de sa routine. Kirk Prime Time Games est terrible. Donc, comparativement à quand c'est pas prime time, il est vraiment mauvais. Et Jalen Hurts, l'inverse, en match prime time à la maison, 10 matchs, 8-1-1 contre le spread. Puis j'ai beaucoup aimé le match des Eagles la semaine passée, honnêtement. J'ai pas aimé leur défensive. Quand même donné 400 verges d'attaque aux Packers. Mais, puis pour avoir repêché autant de joueurs défensifs, puis qu'on dit qu'ils sont si bons, puis qu'ils s'y hot, puis ça. Mais je pense que les Eagles vont traverser les Falcons en fin de semaine. Puis je maintiens le fait que je ne pense pas que Kirk va faire toute l'année. Je pense que Michael Penix va venir le remplacer. Avez-vous d'autres choses sur les games?
Non, mais ça serait tellement... Je trouve que ça serait tellement étrange qu'ultimement, Kirk Cousins, après avoir signé un contrat comme ça, se fasse remplacer avant même d'avoir terminé une saison. je trouve que c'est tellement de la mauvaise mauvaise gérance d'effectifs.
Ouais.
Ça ne fait aucun sens.
Non, ça fait aucun sens, mais ils ont peut-être vraiment tombé en amour avec Michael Penix aussi, tu sais.
Ouais. Ils ont peut-être... Mais c'est quoi, t'avais pas fait de scouting avant, genre?
Ouais, mais c'est une différence entre le voir y parler, le voir en vrai. Il y a des différences, tu sais. Puis peut-être que... Écoute, je sais pas, tu sais. Ça n'a pas l'air d'être une organisation qui s'est serrée non plus dans le plan, justement, comme tu dis. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils ont des joueurs, ils ont des bons joueurs partout, mais j'aime pas leur organisation, puis j'ai pas aimé moi non plus le revirement de situation avec eux. C'est comme si c'est pas clair.
Ouais, bon,
quand c'est pas clair, souvent en termes d'entreprise, t'as pas des bons résultats.
Puis tu sais, est-ce que t'as envie de signer là ensuite quand tu vois ce genre de situation-là se produire? Tu sais, t'es un vétéran, t'as envie de signer en quelque part, t'es joueur agent libre, tu te rends compte qu'ils font ça à un gars qui est établi dans la ligue depuis plusieurs années, qui est comme.
Écoute, Kirk est parti de Minnesota parce que Minnesota, il a dit qu'il allait repêcher un carrière.
Tu sais?
Ben non. Fait que c'est un manque de respect envers Kirk. Puis là, soit que son talon d'Achille est pas correct, ou il demande de faire des affaires qui sortent de sa zone de confort complètement.
Ouais.
Dans les deux cas, c'est pas bon pour les Falcons. Puis s'il joue mal, ben il va se faire débarquer.
Eh oui.
Dans les deux cas, soit à cause de sa blessure ou à cause qu'ils veulent le voir débarquer. Mm. C'est toujours plus facile en termes de fans de dire il joue pas bien, fait qu'on essaie notre carrière numéro 2.
Ouais.
Fait que voilà pour la semaine qui conclut notre fin de semaine de foot. Je dois aussi vous parler de notre commanditaire officiel. Commanditaire officiel, c'est YouBet. Et YouBet.io propose des marchés à 100% sur tous les matchs de la NFL et ce, sans commission. Ça veut dire qu'ils offrent les meilleures cotes au monde sur tous les matchs de la NFL. Et je vous rappelle que les meilleures cotes sont disponibles toujours à partir de 24 heures avant le début des matchs. YouBet, qui est une compagnie décentralisée de paris sportifs. Donc voilà le point .io. Wow. On remercie beaucoup YouBet de commanditer notre podcast de football, la ligne des mêlées. Wrap it up.
Oui.
Est-ce qu'on avait autre chose? Power ranking.
Power ranking.
Finir avec mon power ranking de la semaine 2. Je l'ai envoyé à Pepper, mais il a tout décrissé. Donc.
Quoi? Ben non.
Je comprends plus rien, là. Je vais retourner dans notre conversation.
Il est juste en haut. Tu sens que t'arrives, là. Non? Tu le vois pas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. OK. Power Ranking, semaine 2. Donc, on va le faire après. On va le faire au podcast jeudi, après chaque fin de semaine. Chiefs 1.
Oui.
Honnêtement, trop dominant encore, même depuis l'année dernière. Chiefs encore très dominant contre les Ravens. Niners 2, performance extraordinaire contre une des bonnes défensives de la NFL. Je les monte à 2. Lyon 3. Écoute, ils ont réussi à gagner un match en prolongation contre une des meilleures équipes de la nationale. Et ça, en utilisant des options qu'ils n'avaient même pas encore utilisées. Encore là. Ils ont quelques blessés, mais sont encore très, très forts. Texans, je les grimpe là. Dans mon premier power ranking parce que je pense que c'est la deuxième meilleure équipe de l'américaine. Peut-être la deuxième ou la troisième, étant donné de voir comment l'autre équipe justement qui les suit va réagir. Les Bills, je les mets à 5.
Ah ouais, aussi haut que ça, hein?
Aussi
haut
que ça, ouais, les Bills.
Je suis surpris.
Matt Milano va revenir d'ici la fin de l'année. Les Bills, Josh Allen joue du gros football inspiré depuis l'arrivée de Joe Brady. J'aime beaucoup comment ils utilisent Josh Allen et l'attaque. Je mets les Eagles à 6, parce que je pense que Vic Fangio, le coordinateur défensif, peut continuer à améliorer cette défensive-là, mais je pense que l'attaque m'a vraiment démontré que si Saquon Barkley reste en santé, là, ils vont être très explosifs à l'attaque. Les Ravens, je les descends là, pas nécessairement à cause de la défaite contre les Chiefs, juste un peu de la façon que se sont comportés. Je trouve que Lamar Jackson était all over the place, et ça, c'est pas bon pour moi. Dans un carrière qui veut se rendre jusqu'au bout, carrière doit être discipliné, carrière de pochette, comme je vous disais. C'est toujours à peu près 75% des corps en séries éliminatoires, c'est des carrières de pochette. Ravens, c'est le fun à regarder, mais je pense que Lamar a beaucoup de travail à faire côté technique. Je mets Green Bay là à 7 parce que je sais pas combien de temps Jordan Love ne sera pas là, mais quand même, Jordan Love, s'il était là à plein potentiel, je pense qu'ils auraient probablement même battu les Eagles ou en tout cas pourrait répéter. Donc même s'il est blessé en fin de match, il était clairement incommodé toute la semaine. C'est pour ça qu'il lançait de son pied arrière. Donc je pense qu'il était déjà blessé avant ce match-là. Miami. Écoute, Miami ont eu une bonne performance contre les Jaguars. Je pense que ça reste une offensive qui est très dynamique. Mais Miami pourrait être une équipe qui pourrait baisser fort certainement au power ranking d'ici la fin de l'année. Et je mets à 10 les Cowboys parce qu'en réalité, on n'a pas eu grande équipe qui ont joué du grand football en semaine 1. C'est ça qui est arrivé. Les seules équipes qui ont joué du grand football, c'est les Chiefs, les Niners, les Lions, les Texans, les Bills, les Eagles, puis les Ravens.
Ouais.
et les Bucks, qui sont pas dans mon top 10, mais qui pourraient très bien dépasser les Cowboys en fin de semaine.
Ouais.
Donc ça s'arrête là. Ça ressemble à peu près à 7-8 équipes qui jouent du gros football, puis à peu près 25 qui se cherchent, ouais, encore une fois. Fait que, et j'ai descendu les Jets de là, parce qu'après cette performance-là, pour moi, mérite même pas d'être dans le top 10.
Ben non, ça.
On verra voir ce qu'ils sont capables de faire contre les Titans. Fait que c'est ce qui se complète, notre premier épisode du jeudi.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous. On essaie de faire une grosse heure compacte de foot et on se revoit lundi en direct de la radio.
Wow!
Wrap-up de la fin de semaine de football. Peace!